Alors, donc, face à la crise, qu'est-ce qui se passe et comment réagissent les autorités? Alors, d'une part, on va regarder un petit peu ce que font les banques centrales. Donc, je disais tout à l'heure, les banques centrales, la BCE, la Fed, sont ce qu'on appelle un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, elles doivent intervenir pour sauver une banque et empêcher l'écroulement de l'ensemble du système. Mais en attendant et en espérant ne pas être dans cette situation-là, ce que font les banques centrales, c'est de surveiller un tout petit peu les liquidités et de voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et on le sait suffisamment bien, puisque la BCE n'a cessé de nous répéter en long et en large que sa seule et unique mission, c'était de surveiller la stabilité des prix et l'inflation, et que donc, par rapport aux liquidités et aux crédits. Le problème, la difficulté pour les banques centrales, c'est que soit elles acceptent que de desserrer un tout petit peu le crédit, et alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un emballement qui peut arriver, et notamment il y a des bulles qui se forment, comme on l'a vu. Et donc, difficulté au moment de l'explosion de la bulle. Donc ça, elles ne peuvent pas faire, parce que si elles interviennent à chaque fois pour sauver les spéculateurs, il y a ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire que sachant que ces acteurs, ces banques par exemple, sachant qu'ils vont être sauvés, ben adoptent consciemment un comportement risqué en se disant, ben c'est pas grave, de toutes les manières, on ne payera pas les conséquences puisqu'on viendra à notre rescousse. Bon, donc les banques centrales, pardon, veulent éviter de se retrouver face à une bulle. Mais d'un autre côté, quand elles resserrent le crédit, le problème, c'est qu'elles vont brider l'économie réelle et donc on se retrouve dans une situation d'asphyxie potentielle de l'économie. Donc en permanence, les banques centrales, elles naviguent entre ces deux écueils. D'une part, éviter la formation de la bulle et l'euphorie, et d'autre part, enfin en tout cas, théoriquement, et éviter l'effondrement, l'asphyxie de l'autre côté. Et la Banque centrale européenne nous a expliqué que sa seule mission était celle qui était inscrite dans le marbre, c'est-à-dire surveiller l'augmentation des prix et veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'inflation. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont été absolument écœurées de voir que quand il s'agissait de donner un petit coup de pouce à l'économie ou à la croissance, il était hors question que la BCE intervienne, elle était indépendante, mais que par contre, quand il s'est agi de sauver les banquiers qui avaient pris des risques, là, il n'y a pas eu de problème et la Banque centrale, notamment européenne, a fait preuve de beaucoup moins de scrupules pour courir à leur secours que pour intervenir dans l'économie tout simplement. Voilà. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des plans qui sont mis en avant et il faut dire que la Fed et le Trésor américain ont quasiment, plus ou moins, tenté toutes les interventions possibles et imaginables, mais sans aller jusqu'au bout, j'expliquerai pourquoi, pour essayer de s'en sortir de la crise, mais ça ne semble pas tout à fait agir. Alors, les plans, qu'est-ce qu'ils comportaient comme volets? Alors, d'une part, dans un premier temps, il s'est agi de donner des subventions ou d'aider ou de prêter pour mettre sur pied des plans de sauvetage. C'est-à-dire qu'on a prêté, par exemple, à JP Morgan pour que JP Morgan puisse racheter Bear Stearns, une autre banque. Je signale au passage que les banques qui ont été sauvées, les banques d'investissement, ne tombaient pas normalement, n'étaient pas sous la surveillance de la Fed. Ce qui est absolument scandaleux de voir des autorités intervenir pour sauver des acteurs dont ils n'avaient même pas la responsabilité ou la surveillance, hein, parce que c'était des banques d'investissement, non pas des banques de dépôt, et elles ne respectaient en rien la réglementation prudentielle. C'est-à-dire que c'est des banques, enfin c'est des banques d'affaires, hein, qui ne sont pas les banques que nous connaissons ici, les banques universelles, les banques commerciales. Donc ce sont des banques qui ne doivent pas répondre à certaines réglementations ou à certaines règles, ou qui ne doivent pas remplir certains ratios de solvabilité, mais au moment de la crise, ben, c'est la Banque centrale qui intervient pour les sauver alors qu'elle n'avait même pas l'autorité sur eux. Ils étaient sous la direction de l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, ce qu'on appelle la SEC. Mais en fait, ça c'est une question un tout petit peu annexe. Donc il y a eu plusieurs volets qui étaient donnés dans les plans successifs, et notamment dans le plan Paulson de 700 milliards de dollars. Un aspect, c'était donc au départ de prêter pour venir, pour racheter les banques qui étaient en difficulté. Il y a eu les tentatives de rachat des produits toxiques eux-mêmes. Il y a les injections de liquidités. Là, peut-être un tout petit peu, si ça ne vous ennuie pas, rentrer un tout petit peu dans le détail de ce que veut dire les injections de liquidités. Les injections de liquidités se font quand la banque, normalement ce sont les banques entre elles, là. Le marché interbancaire, le marché monétaire comporte un compartiment, on va dire, où seules les banques et la banque centrale peuvent intervenir. Personne d'autre ne peut intervenir sur ces marchés-là. Donc ce sont les banques qui se prêtent entre elles au jour le jour, et puis ce sont les banques qui vont s'adresser à la banque centrale pour avoir des liquidités. En échange, temporairement, en échange des liquidités, elles déposent auprès de la banque centrale des actifs qu'elles ont, mais normalement ces actifs doivent être de bonne qualité. Or, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la banque centrale et le prêteur en dernier ressort aussi, puisqu'en échange des liquidités, les banques déposent auprès de la banque centrale des actifs de bonne qualité. Et la banque centrale leur rend quand ils rendent les liquidités qu'ils ont empruntées. Alors, donc sur ce marché interbancaire, d'une part, les banques ne se prêtent plus. Voilà un moment, voilà de nombreux mois que les banques ne se prêtent plus du tout entre elles parce que elles se méfient les unes des autres et elles ont peur de se retrouver avec une banque qui n'est pas en mesure de leur rendre ce qu'elles ont prêté. Voilà pour eux. Mais il faut savoir aussi qu'aucune banque, si bien gérée soit-elle, aucune banque n'est capable de faire face à l'ensemble de ses engagements et de ses obligations si une autre banque ne lui prête pas. C'est-à-dire qu'une banque peut être à un moment donné ce qu'on dit illiquide, mais pour autant elle est solvable. Solvable, ça veut dire qu'elle a quelque part, pas sous forme de liquidité, mais qu'elle a quelque part les actifs nécessaires, mais qu'elle n'est pas en mesure, là c'est comme un ménage, hein, on peut très bien ne rien avoir en liquide dans ses poches, mais avoir un patrimoine. Donc on est solvable si on vendait notre patrimoine, mais on n'est pas liquide sur le moment. Ben, c'est la même chose pour les banques. Elles peuvent être illiquides, c'est-à-dire ne pas avoir, elles le sont toutes, s'il fallait faire face à leur engagement complètement. Aucune banque n'est capable, comme ça, toute seule, sans emprunter, de faire face à tout. Hein? Mais elles sont solvables. Or, on ne sait plus distinguer quelles sont les banques qui sont solvables de celles qui sont insolvables ou illiquides. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus du tout à évaluer les actifs qu'elles ont. Il n'y a plus de marché pour ces actifs. Donc, on ne peut plus évaluer et dire ce qu'elles ont ou pas. Vous voyez combien la crise elle est quand même compliquée et grave. Hein? Et d'autre part, donc, quand les banques ne se prêtent plus, il n'y a aucune banque qui, même si elle est solvable, même si elle a les actifs les meilleurs, elle ne peut pas faire face à tous ses engagements ou à ses frais, par exemple, quotidiens de fonctionnement. Donc il faut bien que les banques puissent emprunter quelque part. Comme les banques ne se prêtent pas, il n'y a que les banques centrales. C'est pour ça qu'on dit qu'elles injectent des liquidités, c'est-à-dire elles acceptent, la banque centrale accepte de prêter aux banques, et ce qu'elle prend en échange comme garantie, les fameux actifs qui devraient être de bonne qualité, sont devenus des actifs qui sont toxiques et pourris. Et donc il faut savoir que la banque centrale peut se retrouver avec ces actifs-là qui ne valent plus rien. Mais si la banque centrale se retrouve avec ces actifs, elle les a actuellement, bon, mais on ne sait pas encore si un jour elle va pouvoir récupérer quelque chose en échange. Mais il faut savoir que si la banque centrale ne récupère pas en échange de ces actifs les liquidités qu'elle a prêtées, et bien c'est nous autres, c'est tous les contribuables qui vont, ça va passer sur à nos pertes et pas nos profits, hein. Ça va être à nos dépens que la banque centrale aura pris ces risques-là. Donc je disais, prêts pour acheter d'autres banques, prêts pour, enfin, liquidité, achat des produits toxiques. Et comme ça ne marche pas très bien et qu'on n'a toujours pas réussi à dégeler le marché interbancaire entre les banques elles-mêmes, qu'elles arrivent à se prêter entre elles, eh bien, la dernière solution qui reste, c'est de dire on va recapitaliser directement aux banques des liquidités en échange, on va rentrer dans leur capital, et donc en échange, ben, il faut bien que les banques elles donnent un titre quelconque en échange des capitaux qui leur sont donnés. C'est ce qu'on a appelé, entre guillemets, soit la recapitalisation, ou si vous voulez, ce qu'on appelle aussi un peu les nationalisations, entre guillemets, parce que ça ne va pas chercher très loin comme nationalisation. Et donc, en échange de ces recapitalisations, en partie, les titres qui sont donnés ne sont pas, en fait, des titres de propriété, des actions, par exemple, comme les autres actions. Ce sont des titres hybrides, c'est-à-dire ce sont des titres, par exemple, qui ne donnent pas le droit de vote. Et donc, la critique essentielle que je voudrais faire à ces programmes-là, et la raison pour lesquelles ces programmes ne marchent pas, malgré les énormes sommes qui sont mises dans ces programmes-là, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie qui est demandée, aucune conditionnalité qui est mise avec ces injections de liquidités. Alors évidemment, comme il n'y a pas de contrepartie, ben on a vu par exemple que des banques avaient rémunéré très largement leurs dirigeants ou ne s'étaient pas, même aux États-Unis, mais même je veux dire en France, il ne faut pas aller aussi loin que les États-Unis, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour trouver des exemples de rémunération en période de crise de dirigeants de façon extrêmement importante en utilisant une partie des injections y compris qui sont données, et il n'y a aucun droit, même pas un droit de veto, ni des droits de vote qui sont donnés avec ces titres en échange, ces titres hybrides qui sont donnés en échange des capitaux qui sont apportés à ces banques-là. Et ça, je crois qu'il faut le dire, c'est proprement scandaleux. C'est vraiment tout à fait scandaleux que l'État puisse trouver les moyens d'injecter les États, que ce soit le Trésor américain, que ce soit la Fed, mais que ce soit aussi en France, qu'on puisse mettre sur pied des programmes qui comportent des sommes aussi importantes et que ces sommes-là soient mises à la disposition de cette façon-là des banques sans aucune contrepartie, c'est proprement scandaleux et c'est tous les contribuables, je le disais tout à l'heure, qui seront mis à contribution par rapport à ces sommes-là parce que je ne crois pas que les banques centrales vont les récupérer. Alors on pourra revenir plus longuement sur ces plans de sauvetage et les décortiquer si vous le souhaitez. Je ne veux pas être trop technique parce que ce n'est pas du tout le but de la discussion de ce soir. Un dernier mot quand même sur le G20 qui s'est tenu il y a maintenant 10 jours environ, hein, le 15 novembre. On allait voir ce qu'on allait voir et on allait voir comment on allait moraliser le système et comment ce système... on allait le réguler et voir sortir une refondation du système et je ne sais quoi. Et en fait, vraiment, quand on voit que la montagne, elle a accouché même pas d'une souris, parce que tout ce qu'on a appris par rapport à ce sommet du G20, c'est qu'ils allaient se rencontrer à nouveau entre le 31 mars et le 30 avril. Et depuis hier, on sait que ça va être le 2 avril. Voilà ce qu'on a appris par rapport à ce G20-là. Je crois qu'autant de moyens mis pour arriver à dire qu'on se retrouvera à nouveau et qu'on rediscutera de ces questions-là et qu'en attendant, il faut que les différents États agissent, je crois que vraiment, on ne pouvait pas être plus déçus que cela.